Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 7 mars 2022, 8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la matinale. Voici le titre. La peur règne encore au sein de la population du Mondoro après l'attaque meurtrière perpétrée par des terroristes vendredi dernier. Cette attaque a fait plus d'une vingtaine de morts dans les rangs de l'armée et plus d'une quarantaine de terroristes tués selon l'état-major de l'armée. Un adolescent de 13 ans a trouvé la mort vendredi soir suite à une course-poursuite entre une voiture de police et un véhicule de présumé bandit à Sikoroni en commune 1 du district de Bamako. La population en colère a brûlé deux véhicules du 17e arrondissement. Série de reportages pour la Journée internationale de la femme. Nous allons aujourd'hui à la découverte de deux enseignantes de générations différentes. Ces deux dames nous racontent leur vécu dans l'enseignement. Tout de suite, le reportage à suivre dans ce journal qui sera présenté par Sekou Gadjigou, mise en nom de Nuhum Djiré. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les opérations de ratissage se poursuivent à Mondoro après l'attaque meurtrière contre le camp des forces armées maliennes dans la localité. Selon un communiqué des FAMA, une quarantaine de terroristes ont été neutralisés, 27 soldats tués, d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Selon des sources locales, malgré ces opérations de ratissage, la psychose règne dans la ville. Les mêmes sources affirment que la population a besoin d'aide humanitaire. Le point avec Juliette Koulibaly.
La panique, la famine et la psychose sont l'atmosphère de la ville de Mondoro après l'attaque survenue vendredi dernier contre la base de l'armée malienne dans la localité. C'est du moins habitants de la localité. Depuis l'incident, toutes les lignes téléphoniques sont également coupées, a-t-il déclaré. La même source indique également qu'un renfort de l'armée malienne a été vite déployé sur place. Un ratissage est en cours depuis l'événement. Les populations se réjouissent de l'intervention des forces armées de sécurité, mais ils gardent toujours la peur au ventre, souligne des habitants. Selon un communiqué des FAMA, le soir de l'attaque, le ratissage a permis de neutraliser plus de 70 présumés djihadistes. Au cours de l'attaque, une vingtaine de militaires maliens ont été tués, une trentaine de blessés, dont 21 graves, ont été évacués à Sévaré. Le gouvernement a condamné cette attaque contre les forces armées maliennes dans un communiqué. Il a aussi décrété le samedi 5 mars un deuil national de 3 jours qui prend fin ce lundi 7 mars.
Cette nouvelle attaque contre les FAMA est une manière pour les terroristes de défier l'armée qui monte en puissance, c'est ce que pense en tout cas Kadiatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires. Selon elle, l'armée doit tirer les leçons des échecs précédents pour garder le cap dans la sécurisation du pays. Elle est jointe par Juliette Koulibaly.
Au moment où on parle beaucoup de la montée en puissance de l'armée malienne, où on parle beaucoup des pertes infligées aux groupes extrémistes violents par l'armée malienne, de montrer que non, en fait, eux, ils sont toujours là. On a beaucoup parlé du départ de Barkhane, de l'arrivée au nom de mercenaires, donc tout ce qui est le dispositif sécuritaire. Non seulement il y a eu les alertes de la population, mais il faut savoir que c'est pas la première fois non plus que Mondoré a été attaqué. Là, il faut se poser la question de la vigilance ou de la prise en compte des informations données. Est-ce qu'il y a des leçons apprises depuis 2019? Après, l'armée malienne va dire que bon, c'est une attaque complexe qui fait intervenir plusieurs choses. Si on parle de montée en puissance, il faudra effectivement pouvoir recouper les informations, apprendre des leçons, des échecs passés.
Kadiatou Keïta, spécialiste des questions de sécurité, elle était au téléphone de Juliette Koulibaly. Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Depuis des semaines, la montée en puissance de l'armée malienne est constatée par des habitants dans les localités en proie à l'insécurité. Cette montée a permis la de plusieurs localités qui étaient aux mains des groupes djihadistes. Cette reprise du terrain par les FAMA est-elle suivie du retour de l'administration au centre et au nord du pays? La réponse dans ce reportage de Khalifa Goïta avec la voix de Draman Maïga.
La montée en puissance de l'armée est une réalité, témoignent des habitants de Gao. Toutefois, ceux-ci réclament la présence effective des services sociaux de base, dont leur absence crée un vide aux yeux des populations.
Services financiers, les
impôts, le trésor, le budget. C'est une difficulté majeure pour les populations de Gao, pour les entrepreneurs au niveau local.
Leur absence pose assez de problèmes, surtout aux fonctionnaires de l'État. Les services qui sont sur place, ils se battent tant bien que mal. Bien vrai qu'ils ne sont pas dans les conditions optimales.
Même pour certains papiers, il faut forcément les envoyer. Donc, mais ceux qui sont là, ils sont là, ils travaillent. Mais je crois qu'ils font seulement les services minimums.
Les efforts de l'armée sont salués dans le cercle de Bankass en région de Mopti. Cependant, l'absence de l'administration fait défaut au niveau communal, regrette des populations. Nous sommes obligés de venir à Bankass Ville pour nos besoins administratifs, ajoute.
Quand il n'y a pas d'administration là, tout le monde souffre. Bankass, c'est une zone de concentration et nous vivons les moments les plus difficiles de notre vie.
Je demande à l'État vraiment de venir vraiment à notre secours, sinon vraiment les gens sont fatigués. La population est très très fatiguée.
En attendant le retour définitif de l'administration dans ces localités, les populations prennent leur mal en patience.
8h05 à Sikoroni, c'est à Bamako. Une vive tension a éclaté ce week-end entre la population de ce quartier en commune 1 du district de Bamako et le commissariat du 17e arrondissement. Cette tension faisait suite à une course-poursuite entre une voiture de police et un véhicule de présumé bandit qui a causé la mort d'un adolescent de 13 ans dans le quartier. Des faits confirmés par la police nationale à travers un communiqué. Celle-ci indique l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Mamadou Samassikou.
Les événements se sont déroulés dans la nuit du vendredi au samedi 5 mars 2022. Les témoignages recueillis sur place expliquent que le défunt Barry, âgé de 13 ans, était assis avec d'autres personnes devant une boutique. Quand tout d'un coup, deux véhicules, l'un pourchassant l'autre, se sont introduits dans la rue. Dans le feu de l'action, la voiture de la police a roulé sur le jeune garçon qui meurt sur le coup, souligne des témoins. Le véhicule du commissariat du 17e arrondissement en question ne s'étant pas arrêté pour constater les dégâts, crée de vives tensions au sein de la population. En colère, elle a brûlé deux voitures de la police avant d'être dispersée, affirme Ousmane Barry, le père du défunt. Tard dans la nuit, des responsables de la police se sont rendus dans la famille endeuillée avant de s'entretenir avec des notables du quartier, a indiqué M. Barry. Dans un communiqué, la Direction nationale de la police, après avoir reconnu les faits et présenté ses condoléances, explique qu'une enquête a été ouverte pour citer les responsabilités.
Explication signée Mamadou Samassikou. Quel est le rôle d'un travailleur et celui d'un syndicat dans le développement socio-sanitaire? La question était au centre d'un cadre d'échange entre les plateformes de médecins du Mali et le ministère de la Santé la semaine dernière. Les syndicats des médecins ont apprécié cette initiative. Cependant, leur responsable exhorte le gouvernement à examiner les doléances en cette période de trêve. Le reportage de Kouma Finkeita avec la voix de Lala Aïcha Walletinfo.
À renforcer la communication entre les syndicats de la santé et les départements de tutelle. C'était l'objectif de cette journée d'échange. Selon Mme Djaminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement Social, le dialogue est le seul moyen pour stabiliser le climat social.
Cet exercice est pour nous une façon d'impliquer significativement des travailleurs et des syndicats dans le processus de création d'un environnement de travail propice au plus d'épanouissement du personnel.
Cependant, au cours des débats, les syndicats ont pointé du doigt les manques d'anticipation du gouvernement. Selon le secrétaire général du syndicat des médecins du Mali, Siaka Keita, aucune promesse n'est tenue depuis l'observation de la trêve.
La plateforme des syndicats a fait une suspension de préavis de grève parce que la situation du pays nous imposait. Mais de ce jour à aujourd'hui, aucun gouvernant n'a cherché à comprendre comment est-ce qu'on peut faire avancer ce dossier dans la douceur, dans la calmie.
Les syndicats des médecins du Mali demandent au gouvernement d'honorer ses dites promesses. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, présent à la rencontre, indique qu'ils vont statuer sur la situation.
Parlons à présent du 8 mars, Journée internationale des femmes. Dans le cadre de notre série de reportages, nous allons à la découverte aujourd'hui de deux enseignantes de générations différentes. Il s'agit de la jeune Madeleine Dougnon et la doyenne Bintou Baradji, à la retraite depuis 3 ans. Si ces deux dames ont en commun le métier d'enseignant, par contre, leur vécu diffère. Un regard croisé des deux générations avec Bala Camara.
Bonjour, asseyez-vous.
Nous sommes à l'école où la jeune Madeleine Dougnon enseigne. Elle affirme que c'est par amour qu'elle a opté pour l'enseignement.
Donc, ça fait 3 ans que j'ai commencé à enseigner. J'ai été formée à Djéné, c'était en 2019. Ça me permettra de préparer mon avenir.
Cependant, Madeleine se dit insatisfaite de sa situation financière. Elle affirme aussi avoir des difficultés à combiner le travail ménager à celui de l'école.
Les deux travaux, quand même, c'est pas facile. La maison et à l'école aussi.
Contrairement à la zine Madeleine Dougnon, Bintou Baradji, qui a fait valoir à la retraite, s'est dit satisfaite de ce qu'elle recevait comme salaire dans ses métiers.
Avec les salaires là, je suis très satisfaite parce que ça m'a permis d'éduquer mes enfants.
C'est avec regret que Bintou Baradji observe les dérives sur le terrain de l'enseignement. Elle conseille la nouvelle génération de mettre en avant l'avenir des enfants.
Si je pense à comment nous on a travaillé, on s'est sacrifié. Maintenant, les gens sont pressés.
Notons que les femmes sont nombreuses ces derniers temps à émerger dans les métiers auparavant réservés aux hommes.
Jusqu'au 8 mars 2022, Studio Tamani vous propose une série de reportages sur les femmes dans le cadre du 8 mars. Le mois lunaire Chaban ou Sunkalo Makono a débuté vendredi. Chaban est le 8e mois du calendrier de l'islam et le mois qui précède celui du mois sacré et Ramadan. Les traditions du prophète Mohammed montrent qu'il pendant ce mois de jeûner, de réciter le Coran, de multiplier les zikrs et de donner de l'aumône. Habib Khan, directeur national des affaires religieuses et du culte révélé, il est joint au téléphone par Intel Akbilal.
C'est un mois qui a des particularités. Et parmi ces vertus, il y a le fait que le mois de Chaban contient une nuit qui est la nuit du mi-Chaban. La nuit du mi-Chaban a un lien avec la nuit du destin, Laylatul Qadr. C'est à partir de cet instant que Allah, subhanahu wa ta'ala, commence à prendre les décrets concernant chacun de nous, concernant ce qui va nous arriver, concernant notre devenir, concernant notre avenir. Et c'est cela qui sera acté la nuit de Laylatul Qadr. Donc aussi pendant ce mois de Chaban, les actions que nous menons, que ce soit bon ou mauvais, sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ce mois. Voilà, il faut poser des bonnes actions et ces bonnes actions peuvent être le jeûne pour ceux qui en ont la capacité, la possibilité de jeûner. Ça peut être aussi des zikrs, des rappels à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être aussi des aumônes, des sacrifices et selon la possibilité de tout un chacun.
8h11 à Bamako. Sport à présent, football, la 16e finale de la Coupe du Mali édition 2022 se sont déroulées ce week-end. Certains clubs sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. En championnat national de Ligue 1, l'AS Bakaridjan occupe toujours la première place avec 29 points, suivi de Djoliba Athletic Club 24 points. Les détails avec Oumar Waïgalo.
Lors de ces 16e finale de la Coupe du Mali, le stade malien de Bamako a écrasé FC Kassi sur un score de 7-0. CS Dougou-Wolowila a battu FC Azi 2-0. US Bougouni a perdu face au FC Binga 1-0. ISC Kita s'est imposé 1-0 face à Nyana de Koulikoro. AS Real de Bamako a battu AS Legal de Ségou 2-0. En Ligue 1, le club de Baraouli AS Bakaridjan est toujours en tête avec 29 points suivis de Djoliba Assi. Le stade malien de Bamako, champion en titre, occupe la 7e place. Par ailleurs, les Aigles du Mali préparent activement les matchs de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur national Mohamed Magasouba a présenté ses excuses au peuple malien. Suite à l'élimination des Aigles du Mali au 8e de finale et sa sortie médiatique sur un média international, l'homme de 64 ans récemment maintenu en fonction sera appuyé par un collège d'entraîneurs. Parmi ses encadreurs figure Cédric Kanté, l'ex capitaine des Aigles du Mali a déjà rejoint l'équipe technique.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Et c'était tout pour les infos de ce matin. Vous pouvez réécouter toute cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 320. Formé Viamo, Juliette Koulibaly sera là tout de suite pour la version Bamananka. Merci à toutes et à tous. C'était à la présentation Sekou Gadjigo, mise en nom de Nuhum Djiré. L'exploitation du bois prend une ampleur qui inquiète les populations de Kambila dans le cercle de Kati. C'est une activité qui nous permet de survivre, affirment des exploitants du bois, mais des environnementalistes alertent sur une dégradation exponentielle de l'environnement. Le magazine Parlons de l'environnement est une réalisation ce matin de Fatih Attara.
Le magazine Parlons de l'environnement. Vêtu d'un t-shirt jaune, un pantalon noir et un bonnet gris, l'exploitant forestier Drissa Diarra était assis ce jeudi 3 mars sous l'ombre d'un arbre à Kambila dans le cercle des Kati. Il suivait ses apprentis à l'œuvre. Ces exploitants vivent tous de l'exploitation du bois. Drissa Diarra est au micro de notre correspondante à Kati, Habiba Toudra.
C'est un héritage chez nous. Nous exerçons ce métier depuis des générations et c'est ce qui nous permet de survivre.
Cette coupe du bois n'est cependant pas une situation réjouissante pour certains habitants de la commune de Kambila et ses environs. L'activité menace la survie des populations, estiment ces derniers.
Nous prions les exploitants de laisser les arbres qui produisent des fruits. C'est de ça que nous vivons.
Si nous ne prenons pas garde, nous serons très bientôt envahis par le désert.
Des arbres comme les karités, les nérés, les baobabs doivent être épargnés, même si les exploitants ont le feu vert pour les couper. Ces arbres nous servent de nourriture. Si les gens se mettent à tout couper, nous qui sommes dans le milieu rural, nous mourrons de faim.
La coupe du bois va inévitablement accélérer la désertification au regard de la situation précaire des forêts, regrette l'environnementaliste Sambou Sissoko.
Les forêts ne sont pas en mesure de supporter aussi longtemps que possible. Ce qu'on a constaté sur le terrain, il arrivera un moment donné où il y aura sérieusement des problèmes d'approvisionnement même de nos villes et nos campagnes en bois de chauffe, si on continue ainsi.
Soumana Koulibaly et notre environnementaliste abondent dans le même sens. Selon lui, cette activité menace non seulement les arbres, mais aussi l'existence de beaucoup d'espèces animales.
Ça peut avoir un effet très critique sur la végétation de façon générale parce que ça ouvre la voie aux commerçants qui, même s'ils sont contrôlés sur le terrain, vont accélérer leur activité en procédant comme ils ont eu à perdre pendant un temps donné à combler les villes qui étaient créées dans leur chiffre d'affaires.
Il propose comme alternative la reconversion des exploitants des bois et un renforcement des mesures de restriction.
Les secteurs susceptibles d'être touchés par les mesures dans l'état d'initier des activités pouvant les faire occuper. Par exemple, pour ce qui concerne l'artisanat, on peut initier des activités tendant à la reconversion, par exemple, à la reconversion de ces artisans-là dans d'autres domaines et plutôt que les encourager dans ce domaine-là.
Cette solution risque de ne jamais apporter les résultats escomptés, regrette l'environnementaliste Sissoko, à cause de la réduction des effectifs des agents forestiers.
Imaginez un peu une commune comme Walia, dans le cercle de Bafoulavi, qui compte 36 villages. Il n'y a qu'un seul agent des eaux et forêts. Lui seul, il peut être derrière chaque exploitant forestier dans ces communes-là. Moi, c'est pas possible. D'accord, il y a des arrondissements à 3-4 communes où il n'y a qu'un seul agent des eaux et forêts. Comment vous voulez que lui seul il soit derrière tout le monde?
Il faut rappeler que l'exploitation du gaz butane est aussi interrompue au Mali depuis 6 mois. Une situation qui a aussi accentué les phénomènes de la coupe du bois selon le service des eaux et forêts.
C'est la fin de ce numéro du magazine Parlons de l'environnement qui vous a été présenté par Fatih Attara. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro.
Le magazine Parlons de l'environnement.